Les podcasts de Radio Vatican.
Avec les catholiques en Chine, confions-nous à Marie pour avoir la grâce de supporter avec patience et vaincre les difficultés avec amour. C'est ce qu'écrit le pape François dans un tweet sur son compte Pontifex. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la journée de prière pour l'Église en Chine, en la mémoire liturgique de Notre-Dame de Shenzhen, patronne de la Chine, dont le sanctuaire est situé près de Shanghai. L'an dernier, le pape François demandait à Marie de donner à ses enfants en Chine la capacité de discerner en toute situation les signes de la présence amoureuse de Dieu qui accueille et pardonne toujours. Cette journée a été instaurée par Benoît XVI il y a exactement 10 ans, à l'occasion de la lettre qu'il envoya aux catholiques chinois, un texte fondamental. Le père Bruno Lepeux, prêtre des missions étrangères de Paris, en mission à Hong Kong, revient sur l'impact de la lettre.
Ce texte a permis de clarifier beaucoup de choses, en particulier sur les questions ecclésiologiques, donc les questions par rapport au lien avec l'association patriotique. Le pape Benoît XVI a précisé que les principes de l'association patriotique, les questions d'indépendance, d'autogestion, étaient incompatibles avec la foi catholique. Donc ça, c'était un peu un document de référence sur ces questions ecclésiologiques. Après, c'est pas sûr que c'était vraiment mis en place, et en particulier on voit aujourd'hui dans les négociations entre le Saint-Siège et Pékin qu'il y a un ensemble de compromis qui sont en cours, qui laissent entendre qu'il y aurait une certaine tolérance face aux structures officielles imposées par le gouvernement, entre autres ces questions de l'assemblée patriotique, et donc on se pose la question de savoir est-ce que le texte de Benoît XVI est encore au goût du jour à ce niveau-là. Mais par contre, il y a d'autres choses très intéressantes aussi. Le pape avait invité à la réconciliation entre les communautés. Il y a des choses qui se sont faites. Il y a aussi des durcissements.
Est-ce que cette lettre a eu vraiment un écho parmi les catholiques chinois ?
Ah, énormément. C'est une lettre qui a été au moins au début, reproduite, qui a beaucoup intéressé. Après, je sais que dans certains diocèses, elle a été étudiée par les prêtres en commun. Il y a eu des sessions d'études. Le temps passe vite. Et donc, je ne sais pas si elle est encore très au goût du jour dans les études. Mais c'est sûr que tout le monde s'en souvient. Et on en parle souvent pour y faire référence, par exemple, sur des questions comme j'ai cité tout à l'heure par rapport à l'association patriotique. Quand on veut utiliser des arguments forts, eh bien, on va les puiser dans cette lettre, en particulier dans la première partie de la lettre, qui était une approche plus théologique.
Alors, entre le matérialisme et le communisme, de nombreux Chinois semblent séduits par le message chrétien aujourd'hui. Comment ça se traduit exactement ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vide spirituel au sens large du terme, c'est-à-dire que le matérialisme, le communisme qui est vidé de son esprit, font que les gens se demandent un peu pourquoi ils travaillent, pourquoi ils se donnent tant, pourquoi il faut gagner de l'argent, pourquoi il faut autant de souffrance, bon, pourquoi faire ? Et quel est le sens de la vie ? Et là-dessus, ils ne trouvent pas beaucoup de réponses, et les religions attirent parce qu'on sait qu'elles apportent des réponses à des questions plus existentielles. Et de fait, le christianisme est vu comme une religion de l'Occident, donc quelque chose de plus moderne que les religions traditionnelles chinoises, et ça attire en particulier les jeunes. C'est sûr qu'il y a une attirance pour le message véhiculé par la Bible, et il y a un certain nombre de personnes qui lisent la Bible, s'y intéressent, voire même viennent à l'Église.
Et qui en profite en premier lieu, l'Église officielle ou bien l'Église souterraine, celle qui ne reconnaît l'autorité que du pape ?
Il n'y a pas deux églises. Et ça, le pape Benoît XVI dans sa lettre a été très clair. Il s'agit d'une seule église catholique qui est confrontée à un contrôle de l'État, qui est en fait une persécution latente, et qui fait qu'il y a des réponses différentes. Et on peut parler de communauté officielle et de communauté non officielle. Parce que quand on parle de clandestin, on dit souterrain, on imagine des gens vraiment très, très souterrains. Or, en fait, il y a des communautés non officielles qui ont des vraies églises tout aussi grandes que la communauté voisine officielle. De fait, cette division fait que, qui n'est pas une volonté de l'Église, cette division fait que les chrétiens non officiels ont moins pignon sur rue et que les gens qui s'intéressent au christianisme, ils vont aller plutôt du côté officiel, parce que c'est ceux qui se voient le plus. Mais si ça se fait via des amis, par exemple au niveau des étudiants, bien ils vont aller du côté où leurs amis sont. Donc ils vont aller aussi bien du côté officiel que clandestin.
Y a-t-il des progrès dans les relations entre les deux communautés de catholiques, celles reconnues par le gouvernement et celles qui ne l'est pas ?
On pourrait dire qu'il y a des progrès, on pourrait dire qu'il y a eu un recul. Des progrès, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des diocèses où il y a eu un effort pour essayer de se rapprocher de chaque côté. Mais ça a parfois créé des divisions en interne, c'est-à-dire que dans des communautés clandestines, il y en a qui ont refusé tout contact avec les officiels en disant que on ne pouvait pas accepter des compromis de ce style-là. Et donc, il y en a qui sont partis avec en se rapprochant des officiels et puis d'autres qui ont refusé. Et donc, on a malheureusement vu dans certains lieux, dans certains diocèses, des divisions au sein même des communautés clandestines. Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a deux extrêmes entre ceux qui sont complètement compromis avec le gouvernement, qui sont des évêques illégitimes, qui sont un petit nombre, et puis certains du côté clandestin qui veulent avoir aucun contact avec les officiels et qui vont donc, s'enfermer un peu dans leur tour d'ivoire. Et puis au milieu de cela, il y a toute une série de communautés différentes qui sont officielles mais sans association patriotique ou qui sont non officielles mais connues par le gouvernement, voire même leurs églises sont reconnues par le bureau des affaires religieuses. Donc il ne faudrait pas parler de deux communautés, il faudrait parler de beaucoup de communautés. Il y a un peu, on pourrait dire, un arc-en-ciel entre les deux extrêmes.
Qu'espèrent les catholiques chinois aujourd'hui ?
Il y a une vraie attente et un peu une inquiétude par rapport aux négociations qui sont en cours entre le Saint-Siège et Pékin, parce que tout le monde aimerait une normalisation des relations pour que la vie en Chine se passe de façon beaucoup plus normale, parce que ça, tout le monde en souffre. Mais par contre, ils sont inquiets de savoir si les négociations vont aboutir à quelque chose de vraiment positif pour l'Église ou si la bonne volonté du Saint-Siège ne sera pas utilisée par le gouvernement chinois pour contrôler un peu plus l'Église. Donc ça, c'est une vraie inquiétude que l'on trouve pas seulement chez les communautés clandestines, mais aussi chez les communautés officielles. Mais c'est sûr que du côté clandestin, ils ont très peur que dans tout cela, ils disparaissent un peu et ils sentent depuis quelques années que le Saint-Siège ne les soutient plus autant qu'avant. Quoi.
Un entretien réalisé par Xavier Sartre.